Le magazine du week-end. Oumi Diallo.
Bonjour et bienvenue dans le magazine du week-end. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 13h30 pour cette émission préparée par Léa Varin, réalisée par Xavier Joly et à la technique Ruben Carmazine. Ils sont mineurs et pour certains déjà tueurs ou trafiquants. Dans un rapport édifiant, l'UNICEF dénonce leur exploitation par un système criminel. Alors comment sanctionner et surtout protéger ces enfants, à la fois bourreaux et victimes? Avec nous en studio, Corentin Bailleul, bonjour.
Bonjour.
Responsable du pôle plaidoyer et programme France à l'UNICEF. À distance, Laurent Moukieli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la délinquance juvénile et des politiques de sécurité, et Kathleen Taïeb, avocate pénaliste, membre de l'antenne des mineurs du barreau de Paris. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Que ce jeune homme, tout juste majeur, accepte de témoigner, là encore, il nous a fallu du temps. Mais il y a une semaine, notre fixeur nous a rappelé. Nous l'appellerons Kylian. Il dit qu'il a tué pour la première fois quand il avait 17 ans. Une semaine avant d'exécuter son contrat, il a été isolé à l'écart de la ville, conditionné. C'est ce qu'on appelle la coupure.
On dirait ma vie, c'était un film. On te ramène tout à ta disposition. Même des fois, ils te prennent des villas. On t'achète un Play 5, ils te ramènent des gadgets.
Des gadgets, c'est des filles?
Ouais, des filles. Tu dois patienter. Mais tu penses pas trop au risque, parce qu'ils rentrent dans ta tête.
Il dit encore être mineur quand le réseau lui offre 30 000 euros pour tuer. Pour chaque contrat, il aurait obéi à des instructions.
Marseille encore mineur, déjà tueur, c'est le titre du document dont est tiré l'extrait que l'on vient d'entendre, diffusé fin octobre 2024 dans le magazine Complément d'enquête sur France 2. Corentin Bailleul, vous avez supervisé ce rapport choc de l'UNICEF publié ce mercredi et intitulé « Victimes avant tout, protéger les enfants contre l'exploitation criminelle ». Les faits décrits font froid dans le dos parce que derrière une partie de ces mineurs délinquants, il y a en fait des mineurs dits « poly-exploité. De quelle exploitation parle-t-on et quels sont ces réseaux?
Oui, alors en effet, l'idée de ce rapport, c'était de mettre en lumière un phénomène qui est aujourd'hui largement invisible, largement ignoré. C'est l'exploitation criminelle des mineurs. L'exploitation criminelle des mineurs, c'est le fait d'héberger, de transporter, de recruter un mineur en vue de lui faire commettre des actes illégaux. Et en effet, on a tout type d'actes illégaux, ça peut être autour du trafic de stupéfiants, des vols, cambriolages, la participation à des trafics organisés, la fraude ou encore l'aide au passage irrégulier de frontières.
Oui, il est question aussi d'exploitation sexuelle, de travail forcé.
Et oui, en fait, l'exploitation criminelle, c'est une des formes de la traite des êtres humains. La traite des êtres humains, elle peut prendre plusieurs formes. L'exploitation sexuelle, la prostitution d'autrui, l'exploitation par le travail, le prélèvement d'organes ou la mendicité forcée. Ça, c'est toutes les formes de traite des êtres humains. Et l'exploitation criminelle, donc ici, commettre des actes illégaux en conséquence de l'exploitation, c'est une des formes d'exploitation en France qui est aujourd'hui peu apparente, en fait, largement invisible dans les statistiques. On sait qu'il y a beaucoup plus de cas d'exploitation sexuelle ou de prostitution d'autrui pour les mineurs qui est repéré, et beaucoup moins l'exploitation criminelle. Ce qui est important de noter, c'est que il y a différents éléments constitutifs de la traite. C'est un acte, un moyen, donc la menace, la contrainte, la tromperie, l'abus de vulnérabilité et un but, donc ici commettre des actes illégaux. Il faut savoir que pour les mineurs, on n'a pas besoin de démontrer l'utilisation des moyens, donc l'utilisation de la contrainte, puisqu'on considère qu'elle découle de l'âge de la victime. Autre point qui est important, c'est que le consentement de la victime à son exploitation est sans effet pour la caractériser, c'est-à-dire qu'un mineur recruté pour commettre des infractions, même s'il semble consentant, est quand même une victime au regard du droit international, et justement il faut travailler avec lui la conscientisation de l'acte.
Eh ben on va y revenir un peu après. J'aimerais quand même rappeler ce chiffre selon l'UNICEF et le groupe interinstitutionnelle de coordination contre la traite des êtres humains. Environ 28% des victimes identifiées de la traite dans le monde, et vous venez de décrire les caractéristiques, sont des enfants. Et en 2020, 10% d'entre elles étaient contraintes à commettre des crimes et des délits. Est-ce que vous pouvez nous parler des profils de ces mineurs victimes d'êtres humains ?
Oui, bien sûr. En effet, c'est un phénomène mondial, malheureusement, et qui s'amplifie. De plus en plus de mineurs concernés et qui s'amplifie en termes de nombre de situations qui sont signalées à l'échelle mondiale. Quels sont les jeunes concernés ? Alors, c'est principalement des jeunes qui cumulent un certain nombre de vulnérabilités, c'est-à-dire leur jeune âge, leur précarité multidimensionnelle, qu'elle soit sociale, économique, administrative, sont des éléments qui viennent les exposer davantage à la prédation des exploiteurs, évidemment.
Et dans le rapport, il est question d'enfants français et étrangers.
Oui, en effet. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les statistiques qui sont disponibles, qui reflètent qu'une partie de la réalité, mais on a 90% de mineurs qui sont des mineurs étrangers isolés. Et en effet, évidemment, le fait d'être étranger aujourd'hui en France va être un indicateur d'exclusion, plutôt, et donc en particulier pour les mineurs non accompagnés qui font l'objet de beaucoup de ruptures de protection. Ce qui fait que ça les expose encore davantage. Et puis, comme on a des réseaux d'exploiteurs qui se présentent comme des figures protectrices et qui, en fait, instaurent une forme de dépendance psychologique, affective, matérielle.
Le sentiment d'appartenance, on imagine,
ils oui, offrent tout
peut-être
à fait.
Un peu ça.
Et puis, on a des logiques de solidarité communautaire, disons, où, en fait, dans la migration aussi, on a des réseaux, des traditions migratoires qui font qu'on peut être, du coup, cette figure de dépendance du jeune adulte de la même communauté qui vient protéger, nourrir, loger, trouver une place en squat, mais finalement, à des fins d'exploitation. C'est là aussi un élément déterminant.
Laurent Mukieli, vous êtes sociologue, auteur de La délinquance des jeunes et sociologie de la délinquance. Est-ce que vous êtes surpris par le constat dressé par ce rapport ? Est-ce que cette exploitation criminelle d'enfants, est-ce que c'est nouveau, ce phénomène ? C'est un phénomène récent ?
Non, c'est pas nouveau. Ces données, c'est la petite partie connue de la réalité, bien sûr. Donc, selon la définition, si on voulait par exemple inclure dans cette définition tous les jeunes qui sont exploités, y compris pour faire le petit deal de rue, quel que soit le temps, jour et nuit, etc. Enfin, on pourrait élargir encore beaucoup. Il y a beaucoup de formes, comme ça a été rappelé très justement auparavant. Ça concerne les garçons, mais également les filles, bien évidemment. Donc, ça n'a rien.
Il a toujours été question de ce genre d'échelle.
C'est-à-dire ?
Est-ce qu'on parle, parce que là, on a l'impression quand même que c'est tentaculaire. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce qu'il y a une recrudescence ?
Le problème, quand on est sur quelque chose, donc on parle bien des trafics d'enfants, l'exploitation de mineurs, on est sur un domaine où la partie connue, c'est vraiment la pointe. Donc c'est impossible de dire quand on pense que le chiffre connu est c'est impossible de dire s'il y en a plus ou moins parce qu'il y a peut-être qu'on en voit juste un peu plus aujourd'hui parce qu'il y a un peu plus de personnel.
Effectivement, c'est la mise en lumière, l'effet loupe. Alors en France, au 31 décembre 2023, 770 mineurs étaient sous écrou, dont un peu plus de 50 à l'extérieur, donc non détenus, des garçons à 96%, en grande majorité âgés de moins de 16 ans. Kathleen Taïeb, vous êtes avocate pénaliste, membre de l'antenne des mineurs du barreau de Paris. Quand des mineurs sont exploités par des criminels, est-ce que la loi considère quand même qu'ils sont responsables ?
Alors écoutez, c'est précisément tout le problème. C'est-à-dire que normalement, à partir du moment où on parvient à déterminer et à prouver qu'un mineur est victime d'un système, d'un réseau qui le contraint à commettre des infractions, eh bien normalement, on constate qu'il est victime et non plus auteur. Et il y a un principe qui est posé, qui est un principe de non-sanction, qui devrait normalement prévaloir. Seulement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que dans notre droit, en tout cas français, on a beaucoup de mal à traiter cette dualité, c'est-à-dire être à la fois auteur et victime. C'est quelque chose que notre système actuel judiciaire ne traite pas très bien. Et moi, je le constate chaque fois dans les tribunaux. Plaider, démontrer qu'un mineur est victime d'un réseau qui le contraint à commettre des infractions, c'est très difficile de le faire entendre et de faire valoir ce principe de non-sanction.
Alors justement, ce principe, je vous coupe pour vous laisser reprendre juste après. Alors en 2021, le code de justice des mineurs a été réformé pour permettre d'apporter une réponse pénale plus rapide, mais reste fondé sur cette ordonnance du 2 février 45, dont le principe est donc de protéger et éduquer plutôt que punir, c'est ça, hein ?
Enfin, c'est absolument évident. C'est-à-dire que oui, on a une ordonnance de 2 février 45 qui pose un principe global concernant la justice des mineurs qui doit être différente. Un mineur n'est pas jugé comme un majeur. Ça, c'est le socle de notre droit concernant la justice des mineurs. Et puis, comme c'est un test vieillissant, ben, il a été réformé en profondeur en septembre 2021 avec l'entrée en vigueur d'un code. Hein, avant, il n'y avait pas de code. Là, il y a un code de la justice pénale des mineurs qui reprend des principes, notamment le principe que vous avez dit, donc de l'éducatif qui prévaut sur le répressif. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui met tout le monde d'accord, en tout cas à l'échelle internationale. Hein, c'est le cas, c'est un principe à valeur constitutionnelle. La répression est secondaire concernant les mineurs. Ce qui prévaut au regard de leur jeune âge, c'est l'éducatif, c'est le suivi, c'est la conscientisation, comme je l'ai entendu tout à l'heure, de beaucoup de choses, de leurs actes, voilà. Et donc, c'est uniquement en dernier recours que doivent intervenir des sanctions, et notamment des sanctions des peines de prison fermes, notamment.
Et est-ce que ce principe est adapté à la France de 2025, on peut parler des faits divers, quand on voit des professeurs poignardés par des élèves, par exemple, Kathleen Taïeb?
Alors, c'est une question, vous n'êtes pas la première à me la poser, sans avoir le monopole de la réponse, ce que je constate, et la question que je me pose sincèrement, et que d'ailleurs, j'ai pas la réponse, c'est en quoi condamner par exemple un mineur de 15 ans à 14 ans de prison au lieu de 7 ans, puisque là on remet en cause, il y avait un souhait de remise en cause du principe de l'excuse de minorité, eh bien changerait les choses. En quoi ce serait quelque chose qui protégerait plus notre ordre public? En quoi en réalité traiter un mineur comme un adulte reviendrait à baisser et à protéger notre ordre public? Je ne vois pas en réalité. Je pense que la vraie protection des mineurs, elle intervient évidemment par l'éducatif, et je le vois et je le constate par leur suivi, notamment avec des associations qui sont clés, des personnels de l'enfance, des éducateurs, et c'est ça en fait qui va vraiment aider les mineurs. Aujourd'hui, en 2025, on a de la violence, mais en 1945, on avait déjà de la violence. Peut-être pas la même, je n'étais pas là pour la voir, mais elle était réelle aussi à l'époque, et je pense que M. Mukieli pourra le dire aussi.
Tout à fait, on va y revenir. Avant ça, Corentin Bailleul, je reviens vers vous. L'UNICEF France souhaite une prise en compte des principes de droit international de non-poursuite et de non-sanction. Vous aviez commencé à l'évoquer. Des victimes de traite humaine, ce qui empêcherait en fait qu'elles soient arrêtées, inculpées, détenues ou poursuivies. Est-ce que ce n'est pas donner un blanc-seing à ces criminels pour exploiter des mineurs, ce qu'ils font déjà par ailleurs?
Et non, pas du tout. Donc là, on revient bien sur la question de l'exploitation criminelle que j'ai décrit au début de l'émission. Donc l'objectif, c'est vraiment la sauvegarde du droit des victimes, s'assurer qu'elles bénéficient d'un accès immédiat à une assistance et aux services nécessaires afin d'éviter qu'elles soient sujettes à d'autres, à une nouvelle victimation. Et puis, surtout, ça encourage les victimes à signaler les crimes commis contre elles et à participer en tant que témoin au procès contre les personnes qui les exploitent. Et puis, ça doit évidemment s'accompagner d'une prise en charge adaptée pour ces mineurs et par ailleurs de mesures qui visent à poursuivre les véritables auteurs, donc ceux que vous mentionnez. Et donc, il s'agit de rechercher et de poursuivre systématiquement les exploiteurs en tant qu'auteurs des infractions commises par les mineurs exploités lorsque ceux-ci sont reconnus comme pénalement irresponsables, et les poursuivre également au titre de la traite des êtres humains. Aujourd'hui, on a dans les procédures judiciaires très peu de poursuites pour ces faits-là. Pourtant, la peine pour les exploiteurs, c'est 10 ans de prison, 1 500 000 € d'amende. Aujourd'hui, on a tout de même, sur la question de l'exploitation criminelle, très peu de recherches des exploiteurs, quand bien même le parquet a bien souvent l'opportunité de poursuivre, puisque nous, quand on interroge des avocats, y compris au barreau de Paris, d'ailleurs, certaines de vos confrères,
justement, consoeurs, Kathleen va réagir, Kathleen Taïeb, juste après vous.
On se rend compte, voilà, qu'il y a bien souvent, y compris quand un jeune est considéré comme auteur d'infraction, qu'il est placé en garde à vue, qu'il fait l'objet de poursuites judiciaires, voire d'incarcération, vous l'avez dit, souvent on a l'opportunité de poursuivre sur la traite, puisqu'il y a des indicateurs qui sont identifiés, y compris par les autorités judiciaires, notamment le fait que le jeune ne conserve pas le bénéfice de l'activité, ou alors une part dérisoire, le fait qu'il supporte seul les risques de l'activité, qu'il est recruté sous de fausses promesses, contraint à agir pour survivre ou pour rembourser une dette. Pareil, on a des logiques qui sont des stratégies d'action que je développais tout à l'heure, sur des formes de dépendance matérielle, etc., plein d'indicateurs de traite. Et pourtant, la responsabilité des exploiteurs est rarement recherchée. Typiquement, on a des exemples à Calais. On a largement l'utilisation de mineurs pour soit surveiller des campements par des exploiteurs, ou pour aider aux passages irréguliers, pour aider à monter dans les embarcations, etc. Eh bien, quand les associations signalent la situation des mineurs, ce sont les services enquêteurs sur le démantèlement du réseau de passage qui sont saisis, et non pas des services enquêteurs qui pourraient investiguer les questions d'exploitation. Et donc, les mineurs sont multi-condamnés ou condamnés pour en étant co-auteur de l'aide au passage irrégulier de frontières, alors même qu'ils pourraient être considérés comme victimes d'exploitation.
Kathleen Taïeb, vous souhaitiez réagir.
Oui, mais je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que sur le terrain, en tant qu'avocate, ce qu'on constate, c'est que, et ça a été dit dès le début, c'est un phénomène, la traite des êtres humains, qui est assez ignoré encore, et ignoré aussi par les acteurs judiciaires. C'est-à-dire que lorsqu'on voit que dans des enquêtes, jamais on ne pose la question, lorsqu'un mineur est multi-récidiviste et qu'on voit qu'il est MNA, par exemple, qu'il n'est pas propre sur lui, qu'il est complètement dépendant, stupéfiant, mineur non accompagné, qu'il est totalement isolé, qu'il est totalement sous l'emprise de stupéfiants, on les voit, mais par dizaines, ces jeunes enfants. Et en réalité, de voir que jamais on ne pose la question à ce mineur, est-ce que tu es contraint à commettre cette infraction? Est-ce que quelqu'un te force? Où est-ce que tu dors? Qui t'héberge? Qu'on ne cherche pas, en réalité, l'étage du dessus. On se doute bien que ces mineurs qui ne parlent même pas français, par exemple, pour la plupart, sont pas venus tout seuls. Au Trocadéro, je parle notamment d'un dossier Trocadéro qui avait mis en lumière ce phénomène il y a quelques mois, où des jeunes mineurs étaient sous emprise de stupéfiants et contraints à commettre des délits par des majeurs qui les utilisaient. Et donc ça a été reconnu comme de la traite des êtres humains. Et en réalité, on se rend compte que sans une prise de confiance à tous les échelons, une formation à tous les échelons des personnels judiciaires, des policiers, des juges aussi, et effectivement, les parquetiers ont à la base très souvent tous les éléments en main pour qualifier la traite des êtres humains et poursuivre sur la traite des êtres humains. Et malheureusement, ça n'est pas fait. Et l'intervention d'un avocat, et les recours, et les observations qu'on peut faire peuvent aider, mais malheureusement, c'est souvent trop tard en réalité.
Laurent Mucchielli.
Oui, alors, trois choses pour appuyer tout ce qui vient d'être dit, qui est très important. La première sur, parce que c'est un grand classique des discours politiciens, oui. Et il faut qu'on soit bien clair là-dessus, l'histoire de en 45, on est en 2025, donc forcément, bon, c'est en réalité, depuis 1945, la justice des mineurs a été réformée une soixantaine de fois, déjà. Mm-hmm. La dernière étant le code pénal de 2000 qu'on a évoqué. Il faut bien voir quasiment chaque ministre de la justice vient faire sa petite loi, voilà. Donc c'est une réforme constante. Donc il faut bien être clair là-dessus. Tout le tiens qu'on entend régulièrement du genre voilà 45, c'est vieux, faut revoir tout ça. C'est une plaisanterie, c'est une mauvaise plaisanterie. On a cessé de le revoir. La deuxième chose importante, je voulais dire, ça a été évoqué tout à l'heure et ce sera un point très important, c'est cette dichotomie entre auteur et victime. En France, on a beaucoup de mal à comprendre que les choses sont souvent mélangées. Comme
oui,
les deux
on
faces,
a l'impression que c'est insoluble.
Ben oui, mais il faut, pour vous donner un exemple très concret, la dernière thèse que j'ai fait soutenir à l'Université d'Aix-Marseille, qui est une formidable recherche sur les adolescents délinquants, qui repose sur l'étude de plus de 1800 dossiers de jeunes passés devant le juge des enfants, on a un jeune sur deux, adolescent délinquant, qui a été victime quand il était enfant. Donc oui, ce sera important dans le débat public de rappeler ça et de sortir de cette dichotomie qui oppose en permanence auteur et victime. Et puis la troisième chose très importante à dire, je vais pas vous bombarder de chiffres, mais je voudrais en donner deux. Mm-hmm. Pour montrer ici aussi combien on fantasme cette idée d'évolution constante, c'est toujours de pire en pire, il y en a toujours de plus en plus, ils sont toujours de plus en plus violents, etc., etc. Ce qui est répété, moi, ça fait 30 ans que je travaille là-dessus et 30 ans que j'entends ça. Je vous donne juste deux petits chiffres. En 2023, La justice a condamné 41 mineurs pour des homicides. Vous évoquiez tout à l'heure des coups de couteau, etc. Ok, 41. 10 ans plus tôt, en 2013, il y en avait 59. Donc 30% de plus 10 ans avant.
Il y a une baisse des actes. En revanche, la violence des actes commis augmente et l'âge diminue. L'âge des auteurs diminue.
Eh bien, écoutez, moi, c'est pas ce que je vois dans la donnée, la statistique la plus solide, qui est la statistique judiciaire des personnes condamnées, l'ensemble des condamnations inscrites au casier judiciaire. Et pour vous donner juste le deuxième chiffre qui donne bien une idée aussi, si on prend, non pas au bout de la chaîne, mais si on se situe maintenant au début de la chaîne, à l'entrée dans le système judiciaire, en 2013, l'ensemble des parquets en France avait été saisi de 176 000 affaires concernant de délinquance, concernant des mineurs. 10 ans plus tard, en 2023, 179 000, il y a des petites variations de 1-2%. Donc c'est exactement la même chose que 10 ans plus tôt. Donc vraiment, cette idée que c'est toujours de pire en pire, etc., elle est tout simplement fausse.
Elle est
une peur instrumentalisée par certains, mais l'idée est fausse.
Et bien justement, on va venir à ces certains, peut-être un certain discours politico-médiatique qui se durcit. Voici ce que le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, déclarait en mars dernier sur le plateau de la chaîne CNews.
Une grande partie de la délinquance, y compris la délinquance la plus violente, est le fait de mineurs. Et ces mineurs, malheureusement, ont un sentiment d'impunité. Pourquoi ont-ils un sentiment d'impunité ? Parce que notre politique pénale, la loi qui régit, qui encadre la justice des mineurs, n'est plus du tout adaptée. Parce que on enferme, en réalité, les mineurs dans un long parcours de délinquance. La plupart de ceux qui tuent, on se rend compte qu'ils ont des antécédents judiciaires. Donc moi, je pense que il faut réformer profondément la justice des mineurs. Un, avec des courtes peines de prison de quelques semaines dans des établissements différenciés qui sont prévus à cet effet, comme le font, par exemple, les Pays-Bas. C'est une semaine, deux semaines, trois semaines, voilà. Deux, il n'y a pas d'excuse pour ceux qui tuent, ceux qui blessent grièvement, y compris pour la minorité. Il faut transformer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'excuse de minorité est la règle. Demain, elle doit devenir l'exception.
Alors voilà, Bruno Retailleau, dont le projet de loi est attendu à la rentrée pour punir d'emprisonnement la détention et l'utilisation des mortiers par, selon ses mots, une jeunesse désinhibée, des barbares, la France, des salauds qui visent les forces de l'ordre. Alors j'imagine que vous allez vivement réagir. Je vais vous donner la parole à tous. D'abord, Kathleen Taïeb, sur le volet judiciaire. Une réaction à ces propos déjà, est-ce que c'est possible ? Et j'imagine que pour vous, ce n'est pas souhaitable.
Bon, alors, vous avez, effectivement, déjà, est-ce que c'est possible ? Je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le principe de l'excuse de minorité est un principe à valeur constitutionnelle et que la loi Attal, qui avait été soumise initialement, qui revenait sur ce principe-là, a été censurée à juste titre par le Conseil constitutionnel en juin 2025 sur ce volet-là, notamment, pas sur tous les volets, mais en tout cas sur celui-ci. Parce que ce n'est aujourd'hui, en tout cas dans notre ordonnancement juridique, ni possible et, à mon sens, ni souhaitable de revenir là-dessus. Je repose ma question et j'ai du mal à comprendre quand j'entends parler d'impunité des mineurs. Moi qui suis quasi quotidiennement devant un tribunal pour enfants avec des mineurs que je défends, il n'y a absolument pas un sentiment d'impunité. Il y a une justice qui souffre parce qu'il y a un manque de moyens et je vous le dis, c'est la vérité. Quand on voit qu'il y a des mesures éducatives judiciaires qui doivent être mises en place pour un suivi d'un mineur et qu'en réalité, là où on devrait le voir très régulièrement, eh bien toute la mesure met des mois à se mettre en place ou des semaines parce qu'il y a un manque de moyens, un manque d'éducateurs, etc. Il est là le vrai problème. Les mineurs qui sont suivis, moi j'en vois qui se réinsèrent, j'en vois qui se rescolarisent. En revanche, j'ai du mal à comprendre comment des courtes peines de prison, il faut comprendre que la peine de prison, c'est pour les mineurs la peine ultime et que dans certains cas très graves, au-delà d'un certain âge, je ne vais pas revenir sur les détails, mais il y a beaucoup d'alternatives à cette peine de prison et c'est souhaitable. En réalité, la peine de prison, il n'a jamais été démontré qu'elle permettait d'empêcher la récidive et surtout de favoriser l'insertion du mineur. C'est totalement faux.
Corentin Bailleul.
Oui, c'était intéressant l'extrait que vous avez diffusé puisque le ministre commence par une information qui est fausse en disant que la délinquance, on a une majorité de mineurs. C'est faux, hein. La part des mineurs dans la totalité des mises en cause, c'était 12% en 2024 et c'est une part qui diminue. Monsieur Mukeli l'a dit tout à l'heure, sur le nombre de mineurs mis en cause diminue, la part des mineurs diminue, le nombre de mineurs poursuivis par la justice diminue Et on constate une baisse similaire dans le nombre de mineurs qui sont condamnés.
5,5% des condamnations.
Et puis, je rejoins Madame Taïeb sur la question de la réponse pénale, puisqu'on a des taux de réponse pénale plus élevés que chez les majeurs. Et donc, on ne peut pas dire que la justice pénale des mineurs est un fiasco, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur. Ce sont des éléments qui ne sont pas fondés. Donc, on se demande si ce n'est pas plutôt une logique d'affirmation politique, de forme de récupération. On sait que c'est relativement cyclique, l'idée de mettre un effet loupe sur certains phénomènes, de pointer et de dénoncer le désordre pour se poser en défenseur de l'ordre, mais plutôt dans des finalités qui sont bien différentes. Et puis, je termine sur la question des moyens qui a été soulevée par Madame Taïeb, puisque ça, c'est largement démontré. On a aujourd'hui 4000 mesures éducatives qui ne sont pas mises en œuvre, des mesures au pénal pour des mineurs. On a en protection de l'enfance 3000 mesures judiciaires de placement qui ne sont pas exécutées par les départements. Donc on a aujourd'hui des services, que ça soit de protection de l'enfance ou de prise en charge des mineurs au pénal, qui sont ineffectifs.
Oui, donc tout un arsenal éducatif qui n'est absolument pas exploité. Laurent Mucchielli, comment expliquer ce durcissement du débat public qui porte donc, on le voit, quasi uniquement sur le répressif ?
Oui, alors d'abord, j'approuve absolument ce que vient de dire M. Bayeul et M. Taïeb. Je peux même, soyons très très clairs, chaque phrase de l'extrait très pertinent que vous avez passé du ministre Retailleau, chaque phrase est fausse.
D'accord.
C'est qu'il faut que ce soit clair, chaque phrase est fausse. Et j'attends qu'il me demande de venir pour s'expliquer sans problème. Voilà.
Ça pourrait être sur ce plateau.
La violence, son impunité, la justice laxiste, il faut faire des courtes peines de... C'est le contraire que dit toutes les évaluations. Enfin, voilà. C'est la caricature. Alors, pourquoi? Mais parce que, comme vous venez de le suggérer très justement, c'est le fonds de commerce politique d'un certain nombre de politiciens, a fortiori lorsqu'ils sont en campagne électorale. Et nous sommes rentrés très clairement en campagne électorale. Monsieur Retailleau fait partie de ces personnalités qui se positionnent pour les prochaines élections. Voilà, les choses sont claires. Monsieur Sarkozy nous a fait la même chose il y a 15 ans. Enfin, moi, j'ai vu au cours de ma carrière, j'ai vu ça à de très nombreuses reprises. Hélas.
Laurent Mucchielli, je reste avec vous. J'aimerais qu'on se penche sur ce qui caractérise finalement cette délinquance juvénile. Vous distinguez trois catégories. Commençons par la première, la délinquance initiatique. Qu'est-ce que c'est ?
Oui, alors c'est une petite typologie pour essayer d'organiser un petit peu les idées. Tout à l'heure, je vous disais un peu moins de 180 000 mineurs qui sont présentés devant les parquets. Bon. Donc, ça recoupe des types d'affaires et des types d'auteurs extrêmement différents. Et il faut bien voir que entre la préadolescence, 10, 11, 12 ans, et le milieu de l'adolescence, 15 ans, c'est une époque où toutes les enquêtes que nous avons construites directement auprès des jeunes, sans passer par les institutions, montrent que, à ce moment-là, en particulier chez les garçons, mais pas que, commettre des infractions, consciemment ou pas, c'est quelque chose qui est banal. C'est pas un jugement moral, c'est un jugement de fait. Le fait est que c'est banal, il y en a beaucoup qui le font. C'est ça que j'appelle la délinquance initiatique, c'est toutes ces petites infractions qu'on va faire à un âge de la vie bien particulier.
Donc voilà, ça.
Par ailleurs, on découvre aussi le corps, la sexualité, on a
tout à fait. Les hormones en ébullition.
Voilà, et puis on veut voir aussi ce que ça fait d'être défoncé avec des drogues, on veut voir ce que
de se confronter aux limites, quoi. Ça, c'est quelque chose d'assez naturel. Et deuxièmement, la délinquance pathologique.
Alors, pathologique, c'est pour rappeler que statistiquement, c'est très mineur, mais si vous prenez 100, comme ça, 100 jeunes présentés à un parquet mineur, vous pouvez en avoir un ou deux qui, eux, par ailleurs, ont des profils psychologiques particuliers parce qu'ils ont derrière des histoires familiales dramatiques et que eux, donc, ont une dimension psychopathologique qui appelle du soin. Et donc, je distingue ces deux catégories de la troisième, délinquance d'exclusion. Voilà. C'était une expression d'ailleurs d'un magistrat auteur de nombreux livres, qui s'appelle Denis Salas. Et pour rappeler que, ces délinquants qui ont fait des petites choses comme les autres au fond à la préadolescence, il y en a certains qui, au lieu de se ranger en quelque sorte, passer en gros l'âge de 15 ans et entre le tournant entre le collège et le lycée, parce que tout ça est encadré aussi par le de parcours scolaire, eh bien, il y en a un certain nombre qui, au contraire, eux, ben, vont sortir du système scolaire et s'enfoncer dans la délinquance, qui va devenir une pratique habituelle pour eux, etc. Voilà. Donc ça, c'est voilà, pour bien distinguer, parce que si on n'a pas un diagnostic précis au fond de qui on a affaire, ou si on a un seul outil, une seule réponse, en réalité, ça ne peut pas marcher, parce qu'on a des profils différents qui appelleraient des réponses différentes. Donc c'est la typologie, c'est pour souligner la diversité, la complexité, et essayer d'amener un petit peu de ça dans le raisonnement. Mmh.
Kathleen Taïeb, ces différents profils, cette complexité, est-ce que c'est ce que vous constatez un peu tous les jours dans les tribunaux ?
Oui, bien sûr. Vous rendez compte, on ne peut pas considérer que le mineur délinquant, comme il est présenté comme ça, est le même. En réalité, il y en a qui vont l'être une seule fois, qui vont sortir de route une fois, qui vont très rapidement être cadrés parce qu'ils auront eu des mauvaises influences une fois dans leur vie. Il y en a d'autres. On ne peut pas, évidemment, traiter de la même manière tous les mineurs et toutes les délinquances et les mettre tous dans un même panier. C'est éminemment plus complexe, beaucoup plus humain. Alors oui, c'est très intéressant, les trois types de délinquances qui ont été énoncées ici. Je sais pas si je les reconnais chacune d'entre elles, mais ce qui est sûr, c'est que la réponse pénale, telle qu'elle est aujourd'hui, permet d'avoir une réponse adaptée. Et c'est ça qui rend la justice pénale des mineurs si précieuse et qu'il faut la conserver, et surtout avec plus de moyens. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, au cas par cas, on peut prendre en compte le profil du mineur, son passif, son éducation. Ses parents sont présents à l'audience quand il en a. Et c'est ça qui permet une réponse adaptée et sur mesure, qui est opposée malheureusement à la justice des majeurs, qui est beaucoup plus répressive et beaucoup moins penchée sur leur personnalité. Et donc oui, je rejoins particulièrement ce qui vient d'être dit, et la nécessité de conserver ce qui est mis en place aujourd'hui et de le poursuivre avec des moyens plus adaptés.
Corentin Bailleul, vous souhaitez réagir très rapidement ?
Oui, en fait, c'est un des grands enseignements, un des grands apports de la réforme de 45, à l'ordonnance du 2 février 45, c'était non pas de s'intéresser à l'acte, mais de s'intéresser au mineur lui-même. Et donc, depuis, a été développée dans la prise en charge une attention sur la situation du mineur, son développement et la façon dont ça pouvait expliquer l'acte qui a été commis et l'aider à se reconstruire et à se relever. C'est le primat aussi de l'éducatif qui doit s'intéresser évidemment à la personnalité du mineur. Et là, en fait, on a dans le débat public une focale qui est posée plutôt sur l'acte, c'est-à-dire que dans les faits divers qui sont par le traitement médiatique aussi qui en est fait transformé en phénomène de société, on a une focale qui est plutôt posée sur l'acte et puis sur les victimes. Or, c'est vrai que tout le raisonnement d'une prise en charge éducative, voilà, comme l'a dit Mme Taïeb, devrait reposer sur la question du mineur et de ses parents. Et là aussi, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'accompagnement des parents s'érode au profit de logiques qui visent à cibler les parents comme...
Vous faites mon travail à ma place. C'est la transition parfaite. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. On va s'intéresser justement à ces parents avec cet extrait 1969, l'ORTF consacré un reportage aux mineurs délinquants à Paris, dans lequel un commissaire de police, un jeune délinquant et sa maman, justement, en situation de grande précarité témoigne, on les écoute.
À votre avis, monsieur le commissaire, quel est le degré de responsabilité des familles ?
Oh, c'est très variable. On ne peut pas, d'une part, parler toujours de culpabilité lorsque on a affaire à des débiles mentaux, à des gens qui vivent dans des conditions excessivement misérables et qui, par conséquent, éprouvent de telles difficultés pour subsister par leurs propres moyens que la part qu'ils peuvent réserver à l'éducation de leurs enfants, eh bien, est vraiment très minime, mais il n'est pas étonnant que dans de telles conditions de vie, eh bien, des garçons, des filles, de jeunes adolescents, eh bien, fassent des bêtises, comme l'on dit.
Madame, quel âge avez-vous ?
Je vais avoir 65 ans.
Vous avez des enfants ?
J'en ai deux, monsieur.
Alors là, à côté de vous, c'est un de vos fils qui est là.
Oui, c'est mon fils.
Comment t'appelles-tu, toi ?
Christian.
Est-ce que tu as été en prison ?
Oui.
Quel âge tu avais quand tu étais en prison ?
Moi, j'ai commencé à 15 ans, à Savigny. Puis après, trois fois à Fresnes, j'étais.
Qu'est-ce que tu avais fait ? Simplement des vols de voiture.
Vols de voiture, puis vols de mobylette.
Ton père ou ta mère, ne te demandait pas ce que tu avais fait la nuit ?
Non, pas du tout, non.
Et vous, madame ?
Moi, je me lamentais parce que je me rendais malade. Et qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas arrivé un accident ? Je me faisais du mauvais sang, tout. Surtout, je suis déjà cardiaque, tout.
Si je comprends bien, c'est dans cette pièce que vous couchez, vous et vos deux enfants.
Oui, monsieur.
Est-ce que vous croyez que si vous aviez eu une autre vie, donc une vraie maison, est-ce que vous croyez que Christian, votre fils...
Il aurait changé d'un rue de coup, parce que comme mes fois qu'il me dit, maman, vivement qu'on soit parti d'ici.
D'après vous, il n'aurait jamais été en prison.
Il n'aurait jamais été en prison.
Il n'aurait jamais volé.
Il n'aurait jamais fait de conneries, monsieur.
C'est-à-dire que vous ne pensez pas que c'est de votre faute à vous, mais c'est de la faute à la façon dont il vit.
Il soit trop enfermé. Mais malheureusement, depuis qu'il est revenu, jamais il a fait de conneries, monsieur.
Plus jamais.
Plus jamais. Il a dit, c'est exact, je ne ferai plus de bêtises. Je te le jure, il a juré sur Notre-Dame de Lourdes et sur la croix de Jésus que jamais il n'aurait fait de conneries. Du tout, du tout.
Un document, Ina, poignant et ces mots terribles, débiles, mentaux, pour qualifier les parents d'enfants délinquants. Alors malgré la violence des termes choisis, le commissaire prend tout de même en compte la situation sociale de cette famille. Aujourd'hui, cette problématique est absente de beaucoup de débats, ce qui laisse penser que les jeunes font le choix de la délinquance et du crime. Laurent Mucchielli, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, oui, bien sûr. Ouais, très intéressant. Alors oui, cette idée de choix, c'est une autre sottise qu'on entend régulièrement. C'est comme si un jeune à 15 ans, n'est-ce pas, se mettait devant un papier, puis il prenait une feuille blanche, il faisait deux colonnes. Alors première colonne, si je fais un master de commerce international, je gagne tant là. Et deuxième colonne, si je fais dealer de drogue, voilà. C'est pas un fantasme, cette situation n'existe. Je ne l'ai jamais vu dans aucun dossier nulle part. Hein. Donc, par contre, ce qu'on voit fréquemment dans les dossiers, ce sont les véritables facteurs qui expliquent la délinquance des jeunes, et qui ne sont pas nouveaux du tout. Hein, les recherches américaines, états-uniennes depuis les années 40 à ce sujet. Et ce que montrent toutes ces recherches, c'est que la délinquance a de l'adolescence, il ne peut pas avoir de délinquance d'exclusion, c'est-à-dire vraiment les jeunes qui sont enfoncés là-dedans, qui vont faire un parcours judiciaire plus ou moins long, etc. Ce sont des jeunes qui cumulent, en fait, ce que mon connaissance programme appelle de rupture des liens sociaux. Alors, c'est un gros problème familial.
On vous entend mal, Laurent Mucchielli. On va retester la connexion. Je vais laisser la parole à Corentin Bailleul en attendant.
Oui, vous indiquez que la question des parents est peu présente dans le débat. En réalité, elle l'est, mais pas de la bonne façon. C'est-à-dire que dans la proposition de loi de Gabriel Attal, c'était une proposition de loi, je cite, visant à restaurer l'autorité de la justice vis-à-vis des mineurs délinquants et de leurs parents. Quand il le présentait, hein, ciblait les parents qui n'assument pas leurs responsabilités, qui laissent prospérer la spirale de la violence, avec un certain nombre de mesures visant à réprimer davantage les parents. Et donc, les mesures qui ont été adoptées, qui, elles, n'ont pas été censurées par le Conseil constitutionnel, comme ça a été le cas des autres mesures indiquées par Maître Taïeb.
On peut les rappeler, hein, donc la loi hein, du 23 juin, des mesures pénales renforcées à l'encontre des mineurs radicalisés ou coupables d'infractions en bande organisée, et effectivement, cette responsabilité accrue des parents.
Oui, c'est-à-dire, voilà, la circonstance aggravante pour le délit de soustraction d'un parent à ses responsabilités légales envers son enfant lorsque ça a directement conduit à commettre un crime ou plusieurs délits. Le fait d'être exposé à une amende civile lorsque les parents ne se rendent pas aux convocations du juge des enfants en assistance éducative, c'est-à-dire quand il y a un mineur en danger et que les parents ne se rendent pas aux convocations du juge des enfants, on peut être visé par une amende civile. Tout ça, c'est des... Et puis, il y avait une mesure visant à faire participer davantage les parents à l'indemnisation pour les assureurs. Eh ben, en fait, c'est des mesures qui vont plutôt les éloigner, plutôt rompre le lien de confiance, là où on aurait besoin, et c'est vraiment aussi le fondement, peut-être que des travailleurs sociaux nous écoutent, des membres des conseils départementaux ou des magistrats, mais l'aide sociale à l'enfance, c'est d'amener les parents, y compris parfois même sous la contrainte judiciaire, mais de les amener à accepter l'intervention de des services dans un climat propice avec une mise en confiance et une adhésion. En fait, l'idée, c'est toujours de travailler le retour en famille, de travailler les déterminants sociaux.
Dans l'intérêt de l'enfant.
Voilà, et puis un dernier point, c'est la question de la précarité multidimensionnelle que j'évoquais tout à l'heure. On est aujourd'hui dans un contexte de hausse de la précarité des familles. On a aussi la problématique des familles monoparentales qui sont de plus en plus nombreuses. Peut-être que c'était le cas de la situation qui n'était pas indiquée comme monoparentale à l'époque.
Oui, on a l'impression, hein, à la lecture de nombreuses études, articles, reportages, qu'on est face à beaucoup de mères seules. Donc finalement, on se demande où sont les pères. Et d'ailleurs, il y a quand même pas mal d'études, notamment américaines, qui démontrent que l'absence de père augmente les risques d'échec pour les jeunes hommes Et c'est bien.
Oui, les indicateurs pour les familles monoparentales, qui sont principalement des mères hein, dans les statistiques, sont des familles qui cumulent les difficultés, qui ont des baisses significatives de revenus aussi, puisque c'est la mère qui reste hein, et qui a des différences de salaire entre hommes et les femmes, mais avec une tombée dans la pauvreté qui est bien plus importante quand il s'agit des femmes et des mères monoparentales. Et puis un contexte plus largement, je terminerai là-dessus, mais de pauvreté des enfants, donc c'est environ 3 millions d'enfants qui sont aujourd'hui en situation de pauvreté. C'est 1,2 million de plus de personnes qui sont tombées sous le seuil de la pauvreté. C'est les chiffres de l'INSEE qui sont sortis dernièrement, depuis 2017. Et puis, sur le plan de la santé, c'est une autre tendance de fond. Monsieur Micheli l'indiquait tout à l'heure sur le deuxième facteur. On a aujourd'hui de nombreux enfants qui souffrent de troubles de santé mentale. C'est 1,6 million d'enfants qui souffrent de troubles de santé mentale et 850 000 qui sont pris en charge. Aujourd'hui, on a un vrai déficit aussi dans la prise en charge infantile de la santé mentale des enfants, la question de l'accès aux soins. Et donc, ça aussi, ce sont des tendances de fond qu'il faut bien appréhender pour mesurer ces déterminants.
Laurent Micheli, je crois qu'on a récupéré la connexion. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Oui, alors pour prolonger tout ce qui vient d'être dit, la grande précarité est un des facteurs, bien sûr. Mais alors pour revenir sur la question familiale et puis rajouter une autre qu'il faut surtout pas oublier, dont on n'a pas encore parlé. La question familiale, je reviens à cette recherche, à cette thèse que j'ai fait il y a quelques temps, sur le département des Bouches-du-Rhône, plus de 1100 dossiers de jeunes examinés. On voit que ce qui est dépendant, c'est pas d'abord la forme de la famille. Que les parents soient séparés, divorcés, que la famille soit monoparentale ou pas. Ce qui est le plus déterminant, c'est le contenu réel des relations familiales. Et ce qu'on retrouve le plus souvent dans les dossiers des adolescents délinquants, ce sont des familles marquées par des grands conflits intrafamiliaux. Ce sont des conflits entre parents et entre parents et enfants. Et c'est ce qui distingue aussi la population générale. Quand on fait une enquête sur le lycéen, en général, on voit que, plus de 95% ont d'excellentes relations avec leurs parents, etc. Quand on zoome sur les adolescents délinquants, au contraire.
Merci. Merci. Alors, j'aimerais quand même qu'on termine cette émission sur une note d'espoir quand même, parce qu'on parle d'enfants, certes délinquants, mais d'enfants quand même, et ça ne signifie pas qu'ils deviendront des adultes délinquants. Est-ce qu'il y a une vie après la violence? Il y a quand même des jeunes qui s'en sortent. Est-ce que vous auriez un exemple concret, Corentin Bayeul?
Des exemples concrets, il y en a sûrement beaucoup. Heureusement, il faudrait regarder les situations des sortants des dispositifs de la PJJ hein, qui réalisent un travail, encore une fois, qui est un travail de qualité. Si on leur donne les moyens de le faire, si on évite de réformer régulièrement des législations qui ont été adoptées il y a que quelques années. Donc oui, bien sûr, il y a des parcours positifs, heureusement.
Donc vous lancez un appel. Kathleen Taïeb, est-ce que vous avez un exemple concret, peut-être d'espoir à nous faire, à nous partager.
mais bien sûr, j'en ai et je tiens à ce que tout le monde l'entende, c'est-à-dire que les enfants qui sont délinquants peuvent être jugés, avoir un rapport avec l'institution judiciaire et en ressortir formés, grandis, totalement réinsérés et même d'ailleurs, et c'est le cas de plusieurs mineurs que j'ai pu suivre, rentrer dans ce qu'on appelle la père aidance, c'est-à-dire aider eux-mêmes, à leur tour, des jeunes en situation de difficulté, de décrochage, voyez, et parce qu'ils sont passés par là, trouveront les mots, auront le ton juste et sauront parler et être entendus par le mineur en question. Donc oui, bien sûr qu'on s'en sort et je constate également que c'est grâce au système éducatif et à l'aide éducative et pédagogique qui est apportée aux mineurs, plus que par son aspect répressif. Voilà.
Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Corentin Bayeul, responsable du pôle plaidoyer et programme France à l'UNICEF. Laurent Micheli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la délinquance juvénile et des politiques de sécurité. Et Kathleen Taïeb, avocate pénaliste, membre de l'antenne des mineurs du barreau de Paris. Quant à moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain à 12h45 en direct. Bonne suite de programme sur France Culture.